Vous arrivez bientôt en vue du château. Le chemin sur lequel vous progressez se trouve sur la commune d'Anniviers. Mais dès que vous poserez le pied sur le site archéologique, vous serez sur le territoire de Chipis. Beauregard se situe donc à la limite entre la plaine et le fief d'Anniviers. En outre, le mystère demeure entier sur l'identité du premier seigneur des lieux. Qui a fait bâtir ce château? Qui pouvait être assez présomptueux pour oser dominer le château de l'évêque situé en contrebas sur la colline du Vieux-Sierre? Certainement pas le sire d'Anniviers, fidèle vassal de l'évêque, qui n'aurait pas eu l'outrecuidance de défier son suzerain en le regardant de haut. C'est là que le roman prend le relais de l'histoire. Alors, laissez-vous accompagner durant le reste de la montée par maître Guillaume Perronnet, médecin de Loèche au XIVe siècle. Il a forcément connu ce mystérieux seigneur de Beauregard qui possédait le château avant qu'il ne tombe en main des Rarognes.
Halte là, voyageur!
Guillaume sursauta. Il remarqua immédiatement un deuxième garde demeuré en appui, protégé par l'angle que formait le rocher. Il se trouvait au lieu-dit Petralezzi, à l'angle de la falaise qui marquait la limite entre la plaine et le val d'Anniviers. Cela n'avait aucun sens. Le sire d'Anniviers, en tant que vidôme perpétuel, administrait sa terre au nom de l'évêque et n'avait donc aucune raison de bloquer l'accès de la vallée aux voyageurs venant de la terre épiscopale.
Au nom de quel seigneur gardez-vous ce chemin?
Nous ne gardons pas le chemin d'Anniviers, mais l'accès à la tour Beauregard.
La tour Beauregard?
L'homme leva les yeux et Guillaume l'imita. Il ne voyait que la roche grise qui s'élevait presque à la verticale au-dessus de leur tête. Soudain, il se souvint des derniers mots que lui avait adressés le sire de Châtillon, Pierre de la Tour. « Viens me rejoindre en mai, en mon castel de Beauregard. »
Quel est ton nom, voyageur, et où comptes-tu te rendre?
Guillaume réfléchit à toute vitesse. Il ne comptait pas spécialement revoir le sire de la Tour, mais si ce dernier apprenait qu'il était passé au pied de la falaise sans avoir eu la courtoisie de venir le remercier pour le manteau alors qu'il y avait été explicitement invité, cela serait interprété comme un affront. L'idée le traversa de donner une fausse identité au garde, mais à supposer que ceux-ci le contraignissent à se rendre au château, sa supercherie serait dévoilée et alors comment justifierait-il son mensonge?
Je suis Guillaume Perronnet, physicus et ami de votre bon sire qui m'attend. Conduisez-moi à lui.
Le garde parut troublé.
Mais les ordres
sont de bien servir ton maître. Fais donc ce qu'il attend de toi.
L'homme parut hésiter et se tourna vers son camarade. Devinant ses pensées, Guillaume ajouta :
Que l'un de vous demeure ici. Je me contenterai de celui des deux qui a suffisamment de conversation pour m'accompagner.
Vaincu, le garde laissa là son compère qui n'avait pas ouvert la bouche et pria Guillaume de le suivre. Après avoir continué quelques pas sur le chemin d'Anniviers, il bifurqua à gauche. Le sentier grimpait au milieu des genévriers et des chênes, contournant le pied de la haute falaise qui les surplombait. Parvenu en vue d'une combe, Guillaume leva les yeux et aperçut la tour de Beauregard perchée sur son éperon rocheux. Il fallait être fou pour bâtir château dans ce repaire de loup. Un loup, comme celui de Châtillon, l'infatigable coureur des montagnes du Valais. Ils avaient rejoint un chemin plus large qui gravissait la combe en décrivant des lacets au milieu des champs de seigle. Guillaume ne pouvait détourner ses yeux de l'improbable forteresse. Il réalisa que ce qu'il avait pris pour un donjon ne s'avérait être qu'une tour d'angle derrière laquelle s'élevait un corps de logis plus massif, haut de plusieurs étages et flanqué d'une tourelle. La construction d'une telle forteresse en ces lieux paraissait impossible. Combien de bâtisseurs avaient dû ployer sous la charge en grimpant là-haut et combien avaient basculé dans le vide en maçonnant la courtine? Au lieu de s'approcher du but, le chemin s'éloignait vers le haut de la combe, puis décrivait une épingle pour revenir vers l'entrée du château qui se situait sur le revers. Les champs avaient fait place à des prés, la pente s'accentua et le chemin resserra ses lacets pour traverser une barre de rochers. Des pins et des chênes masquaient de temps à autre la vue sur le château, mais les mouvements et les reflets en haut des murs indiquaient qu'on les avait repérés depuis longtemps. Guillaume, qui n'avait pas bu depuis qu'il avait quitté la plaine, sentait sa gorge se dessécher. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Ils doivent cruellement manquer d'eau sur leur nid d'aigle. Enfin, le chemin devint moins raide. Ils étaient parvenus à la hauteur du château. Ils longèrent un petit bâtiment de pierre et de bois sur la droite, qu'à l'odeur Guillaume supposa être l'écurie. À quelques pas, un garde les attendait devant un portique qui semblait ouvrir sur le précipice. On présenta Guillaume. Le garde leur dit sobrement d'attendre, tourna les talons et traversa la passerelle de l'autre côté du portique. Guillaume observa l'ingénieux dispositif de défense. Le château était situé sur un piton rocheux, séparé de la crête sur laquelle il se trouvait par une profonde échancrure d'une bonne douzaine de pas de large. Le portique donnait accès à une passerelle qui enjambait ce fossé naturel. Quand le garde revint, ils purent s'y engager. La passerelle ne possédait pas de garde-fou. Du côté droit, c'était le vide sur un à-pic vertigineux. Guillaume remarqua que le garde devant lui se tenait bien au centre. Se sachant insensible au vertige, il ne put s'empêcher de regarder vers le bas. Au pied de la paroi verticale, il voyait les cimes des arbres qui formaient de petits bouquets verts clairs s'étageant jusqu'à la plaine. Aucune porte ne s'ouvrait à l'extrémité de la passerelle qui aboutissait face au roc. Mais le garde obliqua sur la gauche, où des paliers de bois, ancrés dans le rocher, obligeaient le visiteur ou l'assaillant à longer la forteresse sur encore une dizaine de pas avant d'accéder à la deuxième porte qui franchissait l'enceinte. En cas d'attaque, les défenseurs auraient beau jeu de repousser l'ennemi dans le vide. Une fois dans la place, Guillaume se retrouva face à un haut mur qui s'élargissait à la base. « Sans doute le donjon », se dit-il. Il suivit le garde qui venait de tourner à l'angle du mur et se retrouva dans une allée longeant la face sud du donjon. À quelques pas se trouvait la troisième porte. « Imprenable », se dit Guillaume, « quiconque se réfugie ici sera inexpugnable, même avec très peu d'hommes. » « Le seigneur de la tour vous attend dans la cour haute », annonça l'homme de faction. Ils pénétrèrent dans la cour du château. Guillaume fut surpris de constater qu'elle était bien plus spacieuse que ce qu'il ne se l'était imaginé. Un serviteur puisait de l'eau, penché au-dessus de la margelle d'un puits citerne. Pierre de la tour l'attendait. Guillaume le rejoignit en grimpant les 5 ou 6 marches qui menaient à la cour haute. «